écoutez Radio France Internationale, 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
Gali Bonin.
À la une de ce journal, la France qui aura bientôt un nouveau gouvernement, le quatrième en un an, annonce prévue dans une demi-heure. Elle a été repoussée en fin de journée afin de respecter le deuil national, l'hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte. En Syrie, le nouveau pouvoir de Damas s'évertue à tisser des liens diplomatiques. Des représentants turcs et jordaniens ont déjà défilé dans la capitale pour rencontrer ses nouveaux dirigeants. Et une puissance sort timidement du silence, l'Iran, allié historique du régime Al-Assad. En Russie, des tentatives d'incendie criminel en série, banques, bureaux de poste et centres d'achat. Qui est à l'origine de ces attentats pour les autorités russes? Cela ne fait aucun doute, les Ukrainiens sont à la manœuvre. Et au Japon, l'annonce d'une potentielle fusion entre Nissan et Honda. Les deux constructeurs japonais veulent unir leurs forces pour rattraper leur retard sur le marché de la voiture électrique. La France sur le qui-vive dans l'attente de son nouveau gouvernement. Sa composition sera dévoilée dans une vingtaine de minutes à 18h30, heure de Paris. L'attribution des ministères a été longue et complexe. Les portefeuilles de l'économie, de la justice et des affaires étrangères étaient au cœur des négociations. Ce sera le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui lira la liste des ministres désignés par François Bayrou. François Bayrou qui a préféré attendre la fin de la journée avant d'annoncer son gouvernement. Le Premier ministre disait vouloir respecter le deuil national en hommage aux victimes du cyclone Chido. Une journée de deuil, 10 jours après le passage du cyclone qui a ravagé l'archipel de Mayotte. À Mamoudzou, chef-lieu du département, une centaine de personnes se sont rassemblées pour observer une minute de silence en milieu de journée. Sur place, le préfet François-Xavier Bieuville a rappelé les priorités de l'État, protéger et secourir, acheminer de l'eau et de la nourriture en urgence, mais aussi rétablir les réseaux d'eau courante et l'électricité.
90% du territoire mahorais a été très très endommagé, voire détruit dans certaines situations. Les maisons, bien sûr, et puis les usines d'eau, les usines d'électricité, les infrastructures de santé. Donc on est en train de reconstruire tout ça. On le reconstruit avec la difficulté de l'accès aux lieux. Sur les usines d'eau, par exemple, il aura fallu, dans un premier temps, déblayer les chemins d'accès qui permettent d'accéder à l'usine. Aujourd'hui, les 6 usines fonctionnent. Elles sont capables de délivrer potentiellement 90% de l'eau sur le territoire. S'agissant de l'électricité, on est dans une situation qui est à peu près équivalente. La totalité de l'infrastructure a été endommagée. La difficulté, c'est qu'il faut remonter des pylônes, retendre des fils et aller rebrancher chacun des endroits. Aujourd'hui, nous avons 35% des foyers qui disposent de l'électricité. Chaque jour, ce sera 1% supplémentaire, 3% supplémentaire. C'est un travail de fourmi. Voilà. Et nous sommes évidemment engagés sur le terrain.
Le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, au micro de Nicolas Feldman. En Allemagne, des manifestants d'extrême droite sont attendus à Magdebourg, 3 jours après une attaque meurtrière au marché de Noël de la ville. Cet attentat à la voiture Bélier a fait 5 morts et plus de 200 blessés et il a relancé le débat sur la sécurité et l'immigration. Pour cause, le suspect est un ressortissant saoudien de 50 ans. Peu après l'attaque de vendredi, le principal parti nationaliste du pays, l'AFD, a dressé un lien direct entre l'événement et les politiques migratoires de l'Allemagne, jugées laxistes. En parallèle du rassemblement organisé par l'AFD, une contre-manifestation pacifiste a lieu à Magdebourg. Une grande chaîne humaine organisée par l'initiative ne donne aucune chance à la haine. En Syrie, une délégation jordanienne a été reçue à Damas aujourd'hui. Le chef de la diplomatie du royaume est venu établir des liens avec le nouveau pouvoir en place. Et pour la première fois, l'Iran a affirmé son soutien à la souveraineté du peuple syrien de décider de son avenir. L'allié historique de Bachar al-Assad a pris une posture diplomatique prudente. Les précisions de notre correspondant à Téhéran, Sirosh Ghiazi.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a reconnu que Téhéran, longtemps très influent en Syrie, n'avait pas de contact direct avec les nouveaux dirigeants syriens qui ont chassé Bachar al-Assad. Il a également ajouté que la Syrie ne devait pas devenir un repère pour le terrorisme. Surtout, il a répété que Téhéran soutenait la souveraineté de la Syrie, alors qu'Israël a pris le contrôle d'une partie du territoire syrien dans le Golan. Alors que les diplomates occidentaux, arabes et turcs, notamment les ministres des Affaires étrangères de la Turquie et de la Jordanie, se sont rendus à Damas pour rencontrer les nouveaux dirigeants syriens, Téhéran a perdu son principal allié régional et se trouve largement affaibli. L'Iran avait envoyé de nombreux militaires et volontaires en Syrie pour soutenir le régime du président Assad. Selon des députés iraniens, Téhéran a dépensé des milliards de dollars pour soutenir la Syrie depuis une quinzaine d'années et quelques 6000 Iraniens ont été tués dans la lutte contre les rebelles syriens. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
Au Proche-Orient encore, la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies, exhorte Israël d'accélérer le retrait de ses troupes du Liban. Le cessez-le-feu entre l'armée israélienne et le Hezbollah est entré en vigueur il y a près d'un mois. Selon l'entente, les troupes israéliennes avaient 60 jours pour quitter le sud du pays et le laisser aux mains des casques bleus. Tel Aviv est donc toujours dans les temps, mais la FINUL dénonce des violations du cessez-le-feu et espère que le retrait des troupes israéliennes apaise les tensions. Et en Israël, Benjamin Netanyahou annonce des avancées en vue d'un accord sur les otages détenus à Gaza. Sans donner plus de précisions, le Premier ministre assure que tout était mis en œuvre pour les ramener à la maison. Mais dans la bande de Gaza, la trêve semble encore bien loin. Le ministère de la Santé du Hamas fait état de 58 morts dans les dernières 24 heures. En Russie, la presse nationale rapporte une curieuse vague de tentatives d'incendies criminels. Les cibles, des banques, des centres commerciaux, des bureaux de poste et des bâtiments administratifs. Selon les autorités, ces actes de vandalisme sont commandités par Kiev, qui cherche à déstabiliser la Russie de l'intérieur. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Ce sont des individus isolés. Ils agissent pour l'instant principalement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, ainsi que dans leurs banlieues respectives. Les autorités ont pour l'instant dénombré une vingtaine de cas depuis vendredi. Des individus distincts ont tenté de déclencher de petits engins explosifs ou de lancer des feux d'artifice sur des bâtiments. Des distributeurs de billets de banque publique, des centres commerciaux, des bureaux de poste, des bureaux de recrutement militaire, des véhicules de police et d'autres bâtiments administratifs ont été pris pour cible. Des images de vidéosurveillance semblent même montrer des individus filmant avec leur téléphone portable les incendies qu'ils tentaient de déclencher. Sberbank, la première banque de Russie, a fait savoir qu'au cours de la dernière semaine, la hausse des tentatives d'incendies criminels atteignait 30%. La plupart des personnes qui ont été arrêtées sont des retraités qui auraient été recrutés par des personnes en Ukraine. Le FSB avait déjà averti les Russes que des fraudeurs ukrainiens se faisant passer pour des agents de sécurité avaient appelé des personnes âgées pour leur demander de commettre ces incendies criminels en échange d'argent ou pour retrouver un accès à des comptes bloqués. Des accusations auxquelles Kiev n'a pas réagi. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Honda et Nissan officialisent l'ouverture de négociations en vue de créer le troisième groupe automobile mondial derrière Toyota et Volkswagen. Face à Tesla et aux constructeurs chinois, les numéros 2 et numéro 3 du Japon peinent à se tailler une place dans la course aux véhicules électriques. Si les négociations aboutissent d'ici juin 2025, Honda et Nissan se réuniront dans une holding commune et c'est Honda qui nommera le dirigeant de la future holding ainsi que la plupart des membres du conseil d'administration. À Tokyo, les précisions de Frédéric Charles.
Ce ne sera pas une fusion entre égaux. Elle sera menée par Honda. Sa valorisation en bourse est 4 fois plus élevée que celle de Nissan. Du Liban, où il est apparu par vidéoconférence sur un écran du club des correspondants étrangers à Tokyo, Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi, rend déjà son verdict. Nissan capitule en mode panique devant Honda, qui n'a aucune expérience des fusions. Foxconn, le géant taïwanais de l'assemblage électronique, fournisseur de Samsung, Apple, se fait une place dans la voiture électrique. Il veut prendre une participation dans Nissan ou racheter les quelques 35% du capital de Nissan détenu encore par Renault. C'est ce que croit savoir Batista Research, présent sur Smart Karma, la plateforme de recherche en ligne. Le Japon s'ouvre enfin aux fusions et acquisitions de ses entreprises par des groupes étrangers. Personne n'est en sécurité, affirme Nicolas Smith, le stratège de la banque CLSA à Tokyo. Mais dans le cas de Honda et Nissan, le gouvernement japonais préfère une consolidation entre Japonais. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le RFI.fr. Et surtout, restez avec nous pour RFI Soir.